Lors du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on utilise l'imagerie médicale. À quoi sert-elle exactement ? Que permet-elle de diagnostiquer ? Est-ce qu'il existe des progrès récents dans ce domaine ? C'est le professeur David Vallon qui va nous en parler. Vous êtes neurologue et directeur du Centre de mémoire, de ressources et de recherche au CHU de Rouen.
Oui, bon, merci bien, merci de cette introduction. Bonjour à tous. Merci d'être venus effectivement encore plus nombreux que l'an dernier. Je me souviens, bientôt il faudra peut-être qu'on prévoie de changer de salle parce qu'à un moment donné on arrivera au bout. Et puis, en titre de pré-introduction, avant de parler de mon topo sur les différentes questions qui ont été abordées, qui sont toutes des questions extrêmement pertinentes, puisqu'on voit poindre l'arrivée de nouveaux traitements, on voit poindre l'arrivée d'une stratégie. Et cette stratégie, elle ne correspond pas au paradigme actuel qui est d'attendre que les symptômes soient suffisamment prégnants pour faire un diagnostic au moment adéquat, au moment approprié. C'est la stratégie qui est actuellement en place, pas nécessairement extrêmement précoce. En revanche, si on a un traitement qui s'adresse aux formes précoces, ça va changer le paradigme. Et juste parce que c'est pas l'objet du topo aujourd'hui, mais vous dire que la Fédération des concessions mémoire, qui est donc l'organisme qui relie toutes les concessions mémoire et les concessions mémoire de ressources et de recherche, donc les CM et les CMRR, travaille à monter un groupe de travail qui va dicter les recommandations et dès la médecine générale. On va impliquer les médecins généralistes pour voir avec eux de quelle manière on réfléchit pour avoir les outils pour identifier des patients, le repérage du patient à un stade précoce et l'adressage avec une filière qui est entièrement à construire. Voilà. Donc, je ferme ma parenthèse, je veux dire que bien sûr qu'il y a un vrai challenge qui est à mettre en rapport de cette future opportunité. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une question qui arrive souvent, qui est de se dire, mais est-ce qu'on peut les voir, les lésions de la maladie d'Alzheimer, celle dont on a un petit peu parlé avec la présentation de M. Janton, mais qu'on va pouvoir là un petit peu rediscuter plus en détail. Et en quoi la neuroimagerie peut nous permettre de mieux visualiser ces choses-là. Alors, ça c'est une introduction, et voilà. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on devrait voir, puisque c'est bien de dire qu'on doit voir les lésions de la maladie d'Alzheimer, mais c'est quoi les lésions de la maladie d'Alzheimer ? Alors ça, vous savez, on parle de maladie d'Alzheimer à cause d'Alois Alzheimer, et il est lui-même, en tant que neuropathologiste, psychiatre et neurologue, puisqu'à l'époque, on était autant neurologue que psychiatre, à l'identification de ses premières lésions. Et donc, ce que vous avez ici, c'est les dessins qu'il faisait lui-même quand il regardait au microscope ce qu'il voyait dans son microscope avec une coloration argentique. Et en fait, ce qu'il voyait, c'était les dégénérescences neurofibrillaires, je vous en montrerai après, telles qu'on les voit actuellement, et il les a décrites chez une patiente, dont on voit la photo ici, qui présentait une forme génétique, une forme héréditaire de maladie d'Alzheimer. Ça, je vous renvoie éventuellement à l'entretien qu'il y avait eu l'an dernier, puisque l'an dernier, je vous avais parlé de la génétique de la maladie d'Alzheimer. Et quelles sont ces lésions ? Alors, on en a parlé un tout petit peu avant. La première des lésions, celle qui a été rapidement identifiée, c'est celle des plaques amyloïdes. Alors les plaques amyloïdes, en fait, pour être plus précis, c'est composé de filaments bêta-amyloïdes qui sont hydrophobes, donc le nom indique qu'ils n'aiment pas trop l'eau, donc ils ont tendance à s'agréger entre elles pour éviter d'avoir trop de contact avec les milieux liquides. Et c'est composé d'une protéine, la protéine bêta-amyloïde. Et on parle souvent, vous voyez ici, je vous ai mis à bêta-42 ou à bêta-40. En fait, c'est le nombre d'acides aminés de cette protéine ou cette peptide, puisque quand il est petit, on parle d'un peptide. Et donc, le peptide à bêta-42, c'est parce qu'il fait 42 acides aminés. Quand on met 40, c'est qu'il en fait 40. Et on s'est aperçu que le 42 est extrêmement hydrophobe, un peu moins que le 40, et qu'il a rapidement tendance à s'agréger dans ses plaques amyloïdes. Alors, en fait, il ne passe pas de peptide amyloïde à plaque amyloïde, il passe par une agrégation successive en oligomères, puis fibrilles, et puis ces fibrilles s'agrègent entre eux et forment les plaques amyloïdes. Les plaques amyloïdes, elles sont situées dans l'espace autour des neurones, dans l'espace extracellulaire. Et on s'est beaucoup posé de questions par rapport à leur rôle. Est-ce que c'est vraiment pathologique d'avoir des plaques amyloïdes ? Est-ce que la plaque amyloïde est toxique pour le neurone ? Ou est-ce que c'est finalement le peptide A-bêta-42 ? Ou est-ce que c'est les étapes intermédiaires ? Là, je rejoins la présentation qui a été faite avant. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on observe, et puis il y a tout ce que ça peut engendrer comme question en amont. Et la deuxième lésion, c'est la lésion qui concerne la protéine tau. Donc là, c'est une protéine, c'est plus gros en nombre d'acides aminés, et il y a une différence majeure entre le peptide amyloïde et la protéine tau, c'est que le peptide amyloïde, on ne lui connaît pas de réel rôle physiologique. On en produit tous une petite quantité. Il y a une voie physiologique de production du peptide amyloïde, mais qui est en une très faible quantité. Et on imagine que c'est plutôt un déchet. Sur une voie physiologique qui peut être empruntée. En tout cas, on ne lui connaît pas de rôle propre physiologique. La protéine tau, c'est complètement différent. La protéine tau, elle a un rôle essentiel. Vous ne pourriez pas vivre sans protéine tau et on ne peut pas vous en débarrasser. Et alors, on dirait, mais pourquoi du coup elle est impliquée dans la maladie d'Alzheimer ? Et bien, le problème, c'est qu'elle va avoir une conformation anormale parce qu'elle va être phosphorylée. Qu'est-ce que c'est que la phosphorylation de la protéine tau ? C'est tout simplement un radical phosphore qui se fixe sur la protéine tau. Ça, c'est normal. Et qui, quand la protéine tau est très phosphorylée, eh bien, elle a une liaison au microtubule. Les microtubules, c'est une espèce d'autoroute du neurone. Eh bien, elle a une liaison qui est lâche et elle laisse les microtubules bien fonctionner. Alors que si elle est très peu phosphorylée, elle est très enserrée. Et il faut imaginer que la protéine tau, en gros, c'est chez vous des câbles de serrage qui serreraient des câbles électriques. Si vous cirez bien les câbles, il n'y a plus rien qui bouge, c'est propre, c'est bien rangé, ça marche bien. Mais le jour où vous voulez tirer un câble, vous ne pouvez plus. La protéine tau, c'est ce collet de serrage, et la vis de serrage du collet de serrage, c'est la phosphorylation. Et le problème, c'est quand elle est hyperphosphorylée, elle ne peut plus jouer son rôle. Elle se décroche complètement du microtubule et elle vient se balader dans la cellule. La cellule en synthétise un peu plus pour compenser et ainsi de suite. Et vous avez un cercle vicieux et on a une accumulation de protéines tau anormalement phosphorylées. Ce qui se passe après, c'est que vous avez une accumulation complète dans le neurone de cette protéine tau anormalement phosphorylée. Et c'est ce qu'on voit finalement au microscope. Et là, cette image-là, c'est celle qu'Aloïs Alzheimer décrivait quand il voyait au microscope en coloration argentique. On la reconnaît encore mieux ici. Voilà. Et donc ça, ce sont les deux lésions microscopique de la maladie d'Alzheimer. Et alors on a souvent l'habitude de dire la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Ben non, en fait, on oublie quand même autre chose. C'est que la maladie d'Alzheimer, il ne pourrait pas y avoir que ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de symptômes. Il y a aussi un maître élément qui, évidemment, est logique, mais qu'il faut quand même citer, c'est qu'il y a la mort neuronale, puisque sans mort neuronale, s'il n'y avait que de la bêta et de la protéine tau, peut-être qu'on ne serait pas si embêté que ça. Mais à cause de la mort neuronale, il y a les symptômes neurologiques, donc notamment cognitifs, qui apparaissent, et donc ça se traduit sur le plan neuropathologique par cette atrophie entre un cerveau normal et un cerveau de maladie d'Alzheimer. Là, vous avez des coupes, là, c'est une vue extérieure, et là, vous avez une coupe passant par le milieu du cerveau de manière comme ça, verticale, et on voit que les structures sont de taille totalement différente. Et en comparaison sur ce schéma-là, on peut lister différents endroits qui paraissent atrophiques, qui paraissent plus impactés, et je vais attirer votre attention sur l'un d'entre eux, qui est ce qu'on appelle les régions temporales internes, et notamment l'hippocampe, siège de la mémoire, et pas de n'importe quelle mémoire, la mémoire épisodique. Alors, la mémoire épisodique, très brièvement, c'est la mémoire des faits, ce que vous avez vécu, quand vous vous rappelez que hier vous êtes allé à tel endroit, ou que ce week-end dernier vous avez vu telle personne dans votre famille, et ben, c'est votre mémoire épisodique, et c'est localisé à cet endroit. Et donc on voit que chez les patients Alzheimer, c'est très atrophique. On y reviendra avec l'imagerie. Et là, à ce moment-là, on peut considérer qu'on a vu l'ensemble un petit peu de la maladie d'Alzheimer. Alors, je néglige effectivement certains aspects. S'il y avait des spécialistes de l'inflammation, ils diraient « Attendez, il y a aussi l'inflammation, il y a aussi les mitochondries, etc. » Oui, bon, on va juste un petit peu simplifier aujourd'hui, mais on a les principaux acteurs. La plaque amyloïde, les dégénérescences neurofibrillaires qui sont, elles, dans le neurone et qui vont aboutir à la mort du neurone. Et cette mort du neurone, elle induit l'atrophie du cortex cérébral, donc du cerveau. Et donc, du coup, bah, voilà, maintenant, on a un petit peu ce qu'on est censé voir. Comment on va essayer de les voir ? Eh bien, on va essayer de les voir de différentes manières. Alors, on a principalement deux grandes machines qui vont être utilisées. L'une d'entre elles, c'est l'IRM. L'autre, c'est le TEP scan, ou le TEP scanner, ou le scanner par tomographie à émission de positons. Ces deux machines-là, elles vont être appliquées de manière à voir un petit peu ces différentes choses. Et vous allez comprendre. Parce que finalement, il n'y a pas une machine pour voir une technique ou voir un élément de la maladie, mais plutôt, selon ce qu'on veut voir, on va utiliser l'une ou l'autre. On va d'abord s'intéresser à l'atrophie du cortex cérébral et mesurer cette atrophie globale ou plutôt spécifique. On va aussi s'intéresser au fonctionnement cérébral. Je vous ai dit, les neurones dysfonctionnent. Est-ce qu'il y a un moyen de voir comment ils dysfonctionnent ? Et aussi évaluer comment ils sont connectés les uns avec les autres. Et puis, on a parlé quand même des lésions microscopiques. Est-ce que l'imagerie peut les voir ? Voir les dépôts amyloïdes et voir les dépôts de protéines tau. Alors, on commence par l'imagerie qu'on dit structurale. L'imagerie structurale, c'est voir comment est le cerveau, comme si on le sortait de la boîte crânienne, l'examen que je vous ai montré du cerveau, sauf que là, c'est du vivant du patient, ce qui est quand même un petit peu plus confortable, notamment pour le patient lui-même. Et attention, une IRM a quand même des contre-indications, on ne peut pas la faire pour n'importe qui. Je vous les ai remis là, parce que c'est quand même important qu'on se rappelle qu'on ne peut pas faire des IRM à tous, donc notamment pacemaker, prothèse auditive, alors sauf si elle peut être enlevée, mais si elle est implantable, ce n'est pas possible. Les éclats métalliques, la pose récente d'une prothèse, parce qu'elle pourrait bouger, donc il faut attendre, ou l'éclipse, surtout les anciennes versions, d'éclipse d'anévrisme intracrânien. Et premier élément essentiel, c'est d'abord voir ce qui n'est pas une maladie d'Alzheimer. Donc l'IRM structurale, elle va nous permettre de rechercher les diagnostics différentiels, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mimer une maladie d'Alzheimer, et notamment une tumeur cérébrale. J'ai par exemple eu des cas de patients avec des tumeurs cérébrales localisées dans l'hippocampe, et donc du coup, a fortiori, ça donne des troubles de la mémoire, sauf que évidemment, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer et ça ne se traite pas de la même manière. Également l'hydrocéphalie, qui est un excès de réabsorption du liquide au niveau des ventricules et qui peut impacter le fonctionnement du cerveau. Et puis, vous avez l'exemple ici d'un hématome sous-dural qui peut être relativement chronique chez un patient âgé. Et si on ne fait pas d'imagerie cérébrale, on passe à côté de ce diagnostic-là. On pense que c'est tout simplement une maladie d'Alzheimer. Or, en fait, ce n'en est pas une. Donc, du coup, l'IRM, elle a un sens déjà pour éliminer les diagnostics différentiels. Mais elle va aussi, bien sûr, avoir un rôle pour identifier l'atrophie du cortex cérébral. Et donc, par atrophie, j'entends diminution du volume d'une structure cérébrale. Donc, je vous ai remis là-haut le même pictogramme que je vous ai mis tout à l'heure. Et là, vous avez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'atrophie des régions temporales internes, notamment de l'hippocampe, juste ici, bilatérale, chez les patients Alzheimer, que l'on voit directement en IRM. Donc là, l'avantage, c'est que le patient a juste à rentrer dans l'imagerie de la machine en IRM. On fait une sorte de photo, et on coupe, et on regarde ce qui se passe. Alors, avec l'œil, je vous dirais qu'il n'y a pas qu'une atrophie hippocampique, il y a également les autres régions du cerveau qui sont atrophiques, de manière moins importante qu'à ce niveau-là, mais ce n'est pas donc chez ce patient-là que cette région. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dire qu'on peut voir d'autres structures atrophiques, et même dans les formes atypiques dont a parlé M. Janton, par exemple. On sait maintenant que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas qu'une maladie de la mémoire. Ça peut se révéler par un trouble du langage, on appelle ça une aphasie progressive primaire, mais qui peut être liée à une maladie d'Alzheimer. On peut même avoir des troubles du comportement, alors qu'on n'a aucun trouble de la mémoire, et c'est pourtant aussi une maladie d'Alzheimer. Eh bien, l'IRM, déjà, va nous permettre de voir où sont situées ces lésions-là. Et vous voyez, si je mettais un trait ici au milieu, vous voyez la façon dans laquelle est structuré le cerveau ici comparativement aux régions en arrière. C'est complètement différent. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'espace noir, c'est du liquide, alors qu'ici, c'est beaucoup plus tassé. Eh bien, là, il y a une atrophie du cortex frontal ici, qui est également présente là, et puis du cortex temporal. Et donc, ça peut montrer la présence d'autres atrophies. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'on voit directement les conséquences de la neurodégénérescence. Mais le problème, c'est que jusqu'alors, je ne vous ai pas indiqué la nature des lésions. Je vous ai indiqué finalement les conséquences, l'atrophie. Mais on ne parle pas d'abêta, on ne parle pas de tau. Donc là, l'IRM, elle va avoir cette limite-là. Elle va nous montrer comment est le cerveau, mais elle ne nous dit pas qu'est-ce qui en est la cause. On continue. Hop. Et juste pour vous dire qu'en recherche, on est quand même capable d'aller beaucoup plus loin que juste faire une analyse visuelle. Ce qui, je vous le dis, est encore fait à l'heure actuelle. Quand je suis en consultation, je fais cette analyse visuelle. Mais on peut aller plus loin, et il y a un développement d'outils qui sont de plus en plus utilisés, y compris en soins. Les laboratoires, maintenant, nous rendent des rapports de mesures de volume des structures du cerveau. Et là, vous avez une mesure volumétrique de l'hippocampe avec une segmentation. C'est comme ça qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on s'est découpé par l'imagerie elle-même. Et puis, on a des mesures de volume qui peuvent nous dire, voilà, c'est atrophique de tant de pourcents par rapport à une population témoin. Bon, c'est intéressant, ça sera sûrement de plus en plus développé dans les années à venir, mais ça, c'était de la recherche il y a 5 ans, c'est maintenant progressivement dans le soin. Alors, il y a l'atrophie, et puis je vous ai dit, il y a le fonctionnement du cortex cérébral. Ça, c'est un autre point que nous permet l'imagerie. Et là, on voit bien que, par exemple, j'ai laissé les deux vignettes, parce que l'IRM et le TEP scanner peuvent nous permettre d'évaluer le fonctionnement cérébral. Alors, quel est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle? clairement, c'est le TEP scanner avec l'évaluation du métabolisme du cortex cérébral au glucose. Mais je ne reviendrai pas plus en détail dessus, mais juste pour vous dire, l'IRM, par exemple, elle peut nous permettre de faire des choses, soit d'évaluer la perfusion cérébrale, donc combien le cerveau a besoin de sang, et donc pourquoi ? Bah parce que s'il fonctionne à cet endroit, il a besoin de plus de sang, et donc ça, l'IRM permet de le voir. Ou alors, comment l'activation des régions du cerveau se fait, notamment au repos. Et bien, il n'y a pas la même activation au repos. Quand vous ne pensez à rien, que vous ne faites rien, que vous êtes immobile et que vous ne bougez pas, votre cerveau est quand même actif. Je vous rassure, c'est vrai. Il est actif, mais cette activation n'est pas la même quand on a une maladie d'Alzheimer, quand on n'en a pas. Et donc ça peut permettre aussi d'aider au diagnostic et à la compréhension. Mais revenons donc au métabolisme du cortex cérébral. La diapositive ne passe pas, ça y va. On va utiliser un traceur. C'est quoi un traceur ? En médecine nucléaire, c'est une caméra qui est capable de capter la radioactivité. Donc il faut qu'il y ait un corps qui émette une petite dose de radioactivité. Alors, je vous rassure, ce n'est pas de la chimio, c'est pas de la radiothérapie. Hein. Ce n'est pas du tout dangereux à partir du moment où on le fait qu'une fois, deux fois par an, par exemple. On va utiliser un petit traceur qui va fixer quelque chose dans l'organisme. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est du glucose, comme vous le connaissez, mais un tout petit peu modifié, avec en rajoute un radical fluor 18, qui lui est naturellement radioactif, et la gamma caméra va capter. Et comme le glucose, c'est le carburant principal du neurone, eh bien, quand on arrive, on est à jeun, et on fait une injection de glucose marquée, du coup, le cerveau, hop, il utilise le glucose qui est mis à sa disposition, et du coup, on voit l'imagerie dans le cerveau du fonctionnement des différentes régions. Et donc, c'est cette cartographie en couleur que l'on peut visualiser. Et vous voyez, si j'ai un individu normal, tout le cortex cérébral est en rouge. En rouge parce qu'il y a beaucoup de traceurs. Plus il y a de traceurs, plus c'est visualisé. Ici, vous voyez une maladie d'Alzheimer débutante avec l'apparition de petits îlots où il manque du traceur. Puis là, vous voyez une maladie d'Alzheimer évoluée dans laquelle le traceur commence à disparaître quasiment partout. C'est ça que nous permet de faire le PET scanner en utilisant le glucose marqué. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut même faire des comparaisons statistiques avec des témoins. On a une banque de témoins qui a fait cet examen-là, donc une banque d'individus qui serait comme ce groupe-là à gauche. Et on compare le patient par rapport à cette banque. Et du coup, statistiquement, on voit uniquement les régions qui sont différentes. Et ces marquages-là nous révèlent, par exemple, là, au niveau du cortex pariétal et au niveau du cortex temporal, nous révèlent les régions qui dysfonctionnent par rapport aux témoins. Et ça peut aider au diagnostic, ça nous montre les évaluations potentielles. Ensuite, on peut également utiliser ce marqueur-là pour suivre le malade dans le temps. Et ça, c'est intéressant, puisque vous voyez qu'un même individu, sujet entre 53 ans et 58 ans, va voir son métabolisme progressivement diminuer. Donc c'est un examen qui peut être éventuellement reproductible et nous mesurer à quel point l'altération se fait. Alors là, vous voyez que ça augmente, parce que là encore, c'est pareil, c'est une carte statistique, c'est-à-dire que ce qui est en rouge est significativement différent des témoins. Et donc là, il y a moins de choses différentes, là, il y a beaucoup de choses différentes, le malade s'est aggravé. Mais encore une fois, je ne vous parle pas des lésions en elles-mêmes, je ne vous ai pas parlé d'amyloïdes et je ne vous ai pas parlé de taux. Et c'est donc là, justement, la question, c'est peut-on voir les lésions microscopiques en imagerie ? Eh bien, à nouveau, on peut envisager l'IRM ou on peut envisager le TEP scanner dans les deux cas de figure. Alors pourquoi est-ce que je ne vous ai pas parlé d'IRM et de lésions amyloïdes jusqu'à maintenant ? Et bien parce que concrètement, avec les IRM dont on dispose actuellement, en soins, qui sont soit des 1,5 Tesla, soit 3 Tesla, c'est-à-dire la puissance, hein, faut imaginer, c'est la puissance de la machine en IRM, et bien ce n'est pas suffisant pour voir les dépôts amyloïdes. Il faut en fait des IRM à haut champ, et je vous montrerai les images juste après. Ce type d'IRM-là, donc à 7 Tesla, voire plus, il y a même des IRM à 10 Tesla maintenant qui sont disponibles, c'est très coûteux. Puis le temps qu'il faut passer dans la machine est assez long. Je vous expliquerai juste après concrètement à quoi. Et puis il y a un autre examen, on va y voir ça juste après, c'est le PET scanner, le même PET scanner que je vous ai montré tout à l'heure, mais on va utiliser à ce moment-là un autre traceur, pas le glucose. On y revient tout de suite. Donc d'abord l'IRM. Vous avez une différence d'imagerie entre une 1,5 Tesla et une 7 Tesla montrant la même structure, donc en l'occurrence temporale. Eh bien, vous voyez bien qu'on ne voit pas du tout la même finesse. On a l'impression que là, on est en 4K, pour parler en version audio, vidéo pardon, de l'imagerie, alors que là, c'est très flou. Eh bien, ça s'applique aussi, du coup, en imagerie. Si vous... Alors, le truc marche une fois sur deux, voilà. Si vous voulez voir des plaques amyloïdes, il faut une résolution suffisante pour arriver à les voir. Mais on peut les voir. Et voilà les images qu'on voit chez l'animal. Donc, ce sont des coupes chez l'animal où on voit les petites plaques amyloïdes. Alors, je ne sais pas si la résolution du projecteur vous permet quand même bien de les voir, mais en zoomant un petit peu, on voit les points. Ce que je voulais juste vous montrer, donc, c'est qu'une IRM 7 Tesla. Donc ça, ce n'est pas disponible partout. Il y en a en France, hein, dans les centres de recherche, mais pas partout et pas en soins. Et puis, l'acquisition chez l'animal était de plus d'une heure. On pense que peut-être chez l'homme, ça serait peut-être deux heures et demie. Alors, il va falloir améliorer les process, etc. Mais on voit bien que rester deux heures et demie dans une machine et un IRM, je sais que quelqu'un a passé une IRM ici, vous voyez de quoi je parle, ça va être tendu. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est encore pas possible, mais c'est des outils de recherche qui sont très intéressants parce qu'on n'a rien besoin d'injecter. On passe l'individu dans la machine et on voit les plaques amyloïdes. On peut voir d'autres choses petites. Alors ensuite, est-ce qu'on peut utiliser le TEP scanner et donc d'autres traceurs? Et c'est là que c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus utilisable. Et donc, avec la même machine TEP scanner, pour information, à Rouen, il y en a une. Hein, elle est située au centre Henri Becquerel puisqu'elle sert aussi pour le cancer, pour visualiser les tumeurs, par exemple. Donc là, ça n'a rien à voir avec le cancer, mais on utilise un traceur qui va être capable de se fixer sur les dépôts amyloïdes. Et vous avez la différence d'une imagerie en PET amyloïde entre un contrôle et un Alzheimer. On voit tout de suite très clairement la différence. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dater l'évolution de ces dépôts amyloïdes dans le temps. Et là, on s'est appuyé sur les formes génétiques autosomiques dominantes. Et donc, je vais vous montrer ici, et logiquement, ça devrait se mettre en route. Non. Donc, est-ce que vous pouvez mettre en route la petite animation? Voilà. Et donc, ce que vous voyez ici qui défile, c'est le nombre d'années qui précèdent l'apparition des symptômes. Comment on peut le savoir? Parce que les formes autosomiques dominantes de Alzheimer, on est capable de prédire relativement précisément quand est-ce qu'apparaissent ces symptômes. Là, on est encore à moins 11 ans avant les symptômes. Et vous voyez que déjà, il se passe des dépôts amyloïdes. Là, on est à moins 6 ans et ça devient de plus en plus important. On est là à presque au début des signes, à moins 1 an, et on est franchement pathologique. Et là, ce qui se passe, les chiffres continuent d'avancer et l'imagerie ne bouge plus. Et donc, on voit bien, on est capable de quantifier de manière dynamique comment les dépôts amyloïdes se passent dans le cerveau. Et ce que ça vous montre là, c'est qu'on comprend pourquoi il faut agir tôt. Et probablement réserver les stratégies anti-amyloïdes au stade très précoce, voire en prévention. Alors ça, c'est un autre débat. On pourra peut-être faire l'occasion d'une vraie question sur les entretiens Alzheimer, mais la prévention thérapeutique, elle découle en fait de ça, et se dire, est-ce qu'il faut traiter encore plus tôt, avant même que les premiers symptômes apparaissent. Le deuxième point, qui est aussi assez compliqué avec le PET amyloïde, c'est celui qui vous compare ici un Alzheimer, ici un contrôle, et ici un contrôle aussi. Et vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est que là, c'est un Alzheimer, là, c'est un contrôle, donc les dépôts sont négatifs. La partie verte, c'est un des artefacts, c'est normal, c'est comme ça chez tout le monde. Et puis ici, on n'est pas équivalent au contrôle, on est peut-être plutôt entre les deux. Alors, est-ce que ce contrôle-là est finalement un individu qui va développer une maladie d'Alzheimer plus tard? Est-ce que finalement, il ne développera jamais? Il y a des cohortes maintenant qui se sont constituées avec des individus qui sont amyloïdes positifs, mais qui ne développent jamais les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est probablement pas suffisant. Et juste pour terminer, la dernière PET amyloïde possible, parce que le dernier PET, scanner possible, celui sur la maladie, les dépôts de taux, puisque je vous ai dit que c'est le deuxième élément, il existe la même technologie, un traceur qui va venir se fixer sur les dépôts de taux, et on voit très très bien des dépôts de taux chez les patients Alzheimer qui ne sont absolument pas présents chez les contrôles. Et là, pour le coup, on n'a pas l'équivalent. On n'a pas de pathologie, on n'a pas de dépôt de taux très profus chez les individus qui sont quasiment asymptomatiques ou asymptomatiques. C'est assez souvent bien corrélé à la clinique, avec la possibilité, là encore, de suivre l'évolution dans le temps. Vous avez ici un individu 32 ans, 59 ans, et puis ensuite qui vieillit. Et au plus la maladie devient sévère et les troubles cognitifs s'intensifient, au plus les dépôts de taux sont visualisés. Donc on voit qu'il y a des outils maintenant qui vont nous servir énormément et dans le diagnostic et dans le suivi, peut-être par exemple pour les traitements. Est-ce qu'on est efficace? On aura peut-être un moyen de le savoir comme ça. Donc en conclusion, je voulais vous montrer qu'il y a beaucoup de marqueurs, et donc voir la maladie d'Alzheimer, c'est possible, et c'est surtout possible de différentes modalités, tout dépend de ce qu'on veut voir, et avec chaque fois des rôles qui sont distincts mais complémentaires. Donc on voit bien qu'on ne va pas d'un coup faire que de l'IRM ou d'un coup faire que du scanner, et puis l'un et l'autre ne répondent pas aux mêmes questions. Et l'idée, c'est que grâce à la neuroimagerie, on va différencier l'approche structurale, la poche fonctionnelle ou l'approche moléculaire, et qu'en fonction de ça, on a un marquage ou une imagerie spécifique qui répond à la question. Et ça, finalement, c'est typiquement la médecine de précision, et c'est donc, je pense, la médecine de demain.
Merci beaucoup, professeur Vallon. Merci, c'est un exposé qui suscite, je pense, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou est-ce que je pose la première question ? Donc, je vais poser la première en attendant. Vous avez signalé que l'IRM, c'est très coûteux. Est-ce que ces examens d'imagerie sont remboursés dans le cadre du diagnostic et du suivi de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, quand j'ai dit très coûteuse, je parlais surtout de l'IRM 7 Tesla. Alors, une IRM classique reste coûteuse quand même, mais les IRM de diagnostic et de suivi des patients sont parfaitement pris en charge, notamment puisque une maladie d'Alzheimer relève d'une affection de longue durée, ce qu'on appelle classiquement un 100% à la sécurité sociale, et donc l'IRM est couverte, remboursée intégralement.
Merci. Des questions ? Moi, j'ai encore une question sur votre exposé. Vous avez souligné que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas toujours au début des troubles de la mémoire, mais aussi des troubles du comportement. Alors, quels sont ces comportements qui peuvent faire penser à une maladie d'Alzheimer ?
Alors, en pratique, maintenant, la neurologie et les neurologues sont devenus plus humbles dans le sens où ils ne vont pas nécessairement relier un symptôme à une maladie comme une maladie d'Alzheimer ou, pour parler de maladie apparentée, une maladie à corps de Lévy ou une dégénérescence frontotemporale. Ça, c'est un vœu pieux, mais qui finalement ne pourra jamais être atteint puisque les symptômes ne sont que l'expression de l'endroit où sont situées les lésions. Et c'est tout, peu importe leur nature. Et donc, quand on a un trouble du comportement, pour savoir si c'est une maladie d'Alzheimer, il faut recourir aux biomarqueurs. Et donc, très logiquement, et c'est maintenant très bien codifié par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on fait une ponction lombaire à un patient qui présente des troubles du comportement dans lequel on pourrait évoquer soit une maladie d'Alzheimer, mais soit également, par exemple, une dégénérescence frontotemporale. Et les lésions ne seront pas les mêmes.
Dans cette dégénérescence lobaire frontotemporal, il y a aussi des troubles de la mémoire qui vont apparaître plus
exactement,
tard.
Exactement.
Oui. Et alors, mais quels sont ces comportements anormaux, communs ?
Indépendamment de maladie d'Alzheimer ou puisque les lésions sont frontales, eh bien, on va avoir plusieurs types de troubles du comportement. Soit des troubles du comportement productif, une agitation, une agressivité, une désinhibition ou un défaut de respect des codes sociaux ou des codes culturels. Mais à l'inverse, il y a également des symptômes entre guillemets négatifs. Tous les symptômes sont négatifs, mais ils sont en moins, c'est-à-dire une apathie, un apragmatisme, une incapacité à anticiper, à prendre une initiative, à raisonner face à une situation et donc finalement un repli sur soi, un retrait de la vie sociale, même juste au niveau familial. Et les deux peuvent être présents à différents moments, ou plutôt l'un ou plutôt l'autre.
Merci pour ces précisions. Oui, madame, on vous donne un micro tout de suite, là. Merci.
Merci, parce que justement, je suis effectivement dans la même problématique, à savoir... moi, je vais devoir parler de ma situation personnelle, tant pis. Ma mère a été diagnostiquée Alzheimer en 2012. À la suite, effectivement, de perte de mémoire immédiate, perte, je disais, spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'elle était, elle commençait à effectivement tourner dans l'appartement, etc. Enfin bref, dans la maison. Et on pense que le diagnostic a peut-être été posé un peu tôt, dans la mesure où elle n'a pas évolué entre guillemets, nous dit la gériatre et le neuropsy qui la suivent, au niveau des symptômes et des tests quand ils les passent. Donc, est-ce qu'il y a en dehors il y a la perte de mémoire immédiate, des événements, etc. Alors, ma mère regroupe les symptômes dont vous avez parlé, à savoir apathie, incapacité de raisonner face aux événements, repli sur soi, etc. Et donc, ça en fait partie. Par contre, est-ce que dans Alzheimer, il y a systématiquement la perte de reconnaissance de son entourage ? Parce qu'en fait, elle nous reconnaît toujours, elle sait toujours qui est qui pour toute la famille, pour les amis. Donc, nous, on est absolument, on est complètement perdu parce qu'on ne sait pas si c'est Alzheimer ou pas Alzheimer. Et elle n'a pas fait d'IRM pour justement qu'on ait enfin un vrai diagnostic sur sa maladie. Donc, il y a les symptômes, les premiers symptômes révélés normalement ce genre de maladie. Donc, si ce n'est pas Alzheimer, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on doit faire des tests pour vraiment savoir si c'est ça ou pas ? Enfin, c'est assez perturbant. C'est-à-dire que nous, on ne sait plus quoi faire. En plus, elle n'a pas dû... Elle sait tout faire au niveau physique, excusez-moi. Elle n'a pas de handicap physique. C'est-à-dire que quand je lui demande d'éplucher des carottes, elle ne va pas sucrer les fraises, hein. Enfin, si je peux jouer sur l'expression. Elle sait parfaitement ce qu'il faut faire. Par contre, il n'y a plus envie de rien. Vous parlez de l'apathie, du désir, etc. Donc, on est complètement perdu. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire.
Est-ce qu'il faut une IRM pour faire le diagnostic, au fond? Alors, c'est un peu la question.
La recommandation, c'est de faire une imagerie et, dans le meilleur des cas, une IRM. Mais il faut qu'il y ait une imagerie. Ça, c'est obligatoire. Après, il y a le scanner. Mais logiquement, maintenant, c'est plutôt le scanner à défaut de l'IRM.
Donc là, il faudrait qu'on refasse une IRM pour effectivement avoir le diagnostic.
Si vous avez un doute, vous pouvez l'exprimer auprès de la gériatre, en l'occurrence. Et il est légitime de refaire une IRM dans les situations où il y a un doute. On me demande souvent en consultation, mais pourquoi est-ce qu'on ne refait pas d'IRM régulièrement? Parce que je leur explique que l'IRM, elle ne permet pas de suivre l'évolution. Elle va être au contraire souvent trop faussement rassurante. On ne va pas voir beaucoup de changements et on va se dire, ah ben, la maladie n'évolue pas. Alors qu'à côté de ça, cliniquement, à la maison, c'est très compliqué. Donc je leur explique que c'est la clinique qui va guider l'évolution. Mais par contre, l'IRM, elle reste toujours pertinente dans les différentes stratégies diagnostiques. Quand il y a un doute sur le diagnostic, ben on peut être amené à refaire une IRM. Okay. Et juste pour répondre à votre question, je vais épingler le mot systématiquement. Vous m'avez dit, est-ce qu'il y a systématiquement... Alors là, je vais pouvoir vous répondre. La réponse est non. En fait, maintenant, c'est ce qu'on pensait avant. Et le fait que ça vous perturbe est tout à fait normal. Il faut imaginer, il y a 20 ans, dans les grands congrès de grands spécialistes de la maladie d'Alzheimer, des neurologues, des psychiatres, qui s'étripaient entre eux, parce qu'il y en a qui disaient « mais la maladie d'Alzheimer, ça peut être une maladie avec des troubles du comportement ». Ils disaient « non, c'est pas possible, c'est dans les critères, on a forcément un trouble de la mémoire, c'est systématique ». Et c'est vrai que les critères à l'époque, qui ont valu jusqu'en 2011, puisque on a parlé de 2007, mais les critères appliqués en clinique, c'est 2011, jusqu'en 2011, il était obligatoire d'avoir un trouble de la mémoire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on sait qu'il peut y avoir des présentations de maladie d'Alzheimer où il n'y a aucun trouble de la mémoire. Parce qu'on est tout simplement devenu plus humble en disant « mais il y a un étage des protéines, A bêta, tau, etc. Puis il y a un étage de la clinique. Et si on parle d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, donc il n'y a pas d'amyloïde dans cette dégénérescence, il peut y avoir du tau, mais il peut y avoir aussi d'autres protéines. Mettons par exemple, je vais vous en donner une pour que vous ayez un peu, TDP, on va juste l'appeler comme ça, TDP, il n'y a que du TDP. Il n'y a pas d'A bêta, il n'y a pas de tau, il n'y a que du TDP. Mais l'altération, elle impacte les régions temporales, et notamment temporales internes, le patient a un trouble de la mémoire. Pourtant, il n'a pas une maladie d'Alzheimer. Et si on ne fait pas un certain nombre d'examens, par exemple une ponction lombaire qui va révéler que l'amyloïde est strictement normal, et même peut-être la protéine tau également strictement normale, on aura dit, bah, c'est un Alzheimer. Parce que cliniquement, on se sera trompé.
Voilà. Parce que c'est un peu fourre-tout, enfin, si je peux me permettre l'expression.
C'est toutes les limites. Alors après, la problématique, c'est est-ce qu'il faut faire une ponction lombaire à tout le monde? Pour l'instant, la Haute Autorité de Santé n'a pas recommandé de le faire à tout le monde. C'est-à-dire que si le tableau est prototypique et que le sujet est plutôt âgé avec les... Voilà, la difficulté de pouvoir faire une ponction lombaire avec un dos qui est parfois remanié, puis un patient qui a certaines appréhensions, et donc c'est plus difficile de lui proposer une ponction lombaire, on ne le fait pas. Mais s'il y a un doute diagnostique, ou si l'individu est jeune, et là quand je dis jeune, c'est même pour une présentation typique, amnésique, etc., on fait une ponction lombaire. Ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Merci beaucoup, professeur David Vallon, pour cet exposé.